franceinter.fr. La science de l'environnement, en partenariat avec reporter.net, le quotidien de l'écologie.
Observer les océans et les réserves de poissons à travers les yeux des oiseaux pour mieux les protéger et gérer donc les écosystèmes marins, bien c'est cette méthode nouvelle que vous proposez Amélie Lécroël. Bonjour à vous.
Bonjour Mathilda.
Vous êtes en ligne avec nous, vous êtes écologue au Centre d'écologie fonctionnelle et évolutive de Montpellier. Vous avez donc équipé une colonie de footbassins, de caméras et de GPS pour suivre leur quotidien pendant 4 ans. Vous allez nous décrire ça dans un instant. Hervé Kempf est également avec nous. Bonjour Hervé.
Bonjour Mathieu.
Avec notre partenariat avec reporter.net. Alors Hervé, justement, se servir des oiseaux pour sensibiliser aux problèmes de la pêche, c'est plutôt original hein, comme démarche.
Oui, tout à fait. Et puis ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, on n'avait pas du tout envie d'être sédentaire mais d'aller rêver avec ces oiseaux magnifiques qui migrent sur des milliers de kilomètres. Le plus grand oiseau marin vivant en Europe, notamment en Bretagne, on va le voir. Et ces oiseaux extraordinaires qui peuvent migrer de la Bretagne jusqu'au sud de l'Afrique et qui font des fulgurantes descentes au-dessus de l'océan. Ce sont des voleurs au sens des voiliers plus exactement hors pair, des pêcheurs hors pair. Et voilà, ils sont un instrument, un objet d'observation et de connaissance de l'écosystème marin tout à fait nouveau comme on va le voir.
Amélie Lécroël, donc c'est un gros travail que vous avez mené avec des collègues japonais. Combien d'oiseaux est-ce que vous avez suivi au total ?
Alors, pendant les 3 années en fait du projet, on a équipé 60 oiseaux de GPS, d'enregistreurs GPS pour suivre leur déplacement en mer. On a aussi équipé une vingtaine d'oiseaux de caméras et une soixantaine d'oiseaux aussi de géolocateurs, des enregistreurs de lumière miniaturisés qui nous permettent de les suivre dans leur migration jusqu'en Afrique de l'Ouest.
Et justement, qu'est-ce qui vous intéresse dans ce suivi au quotidien de ces oiseaux qui voyagent énormément ?
Alors, ce qui nous intéresse, c'est que ces oiseaux, c'est de véritables passeurs de frontières. C'est des passeurs de frontières écologiques. Ils font le lien entre la terre et la mer, entre le milieu aérien et le milieu sous-marin. Et ce sont aussi des passeurs de frontières politiques, c'est-à-dire ils se fichent un peu des unités de gestion traditionnelles. Et ils nous permettent d'appréhender les océans de manière globale, c'est-à-dire et de dépasser la dichotomie entre aires protégées et aires non protégées.
Alors justement, Amélie Lécroël, quand vous dites que vous équipez ces oiseaux de ces équipements, est-ce que c'est lourd pour eux ? Ça représente quoi concrètement sur leur plume ?
Alors non, c'est pas très lourd. Un enregistreur GPS, c'est moins de 20 grammes et les caméras miniaturisées qu'on utilise font autour de 40 grammes. Donc on reste bien en deçà des 3% de la masse corporelle de l'oiseau qui sont utilisés en général comme seuil.
Alors vous avez récolté les données, puis vous avez montré les résultats aux pêcheurs, aux représentants d'État, aux industriels. Quels étaient ces résultats et comment ont réagi toutes ces personnes ?
Notre pari, c'était de se dire que les oiseaux marins, ils pouvaient servir de support aux discussions et aux échanges de savoir entre acteurs. D'abord parce que ce sont des animaux visibles, de grande taille, qui sont très présents dans le quotidien des habitants du littoral et qui ont un rapport, si vous voulez, différent avec les différents groupes d'acteurs du milieu marin. Ça peut être une source de nourriture pour les chasseurs en Europe du Nord, une composante écologique pour les scientifiques, une ressource économique pour les professionnels du tourisme ou parfois un compétiteur pour les pêcheurs. Et l'intérêt aussi de ces oiseaux, c'est que donc ils sont assez gros pour être équipés et qu'on en tire des données qui sont extrêmement visuelles, des cartes de trajet, des vidéos. Et en fait, on a réuni à 2 reprises l'ensemble des acteurs du milieu marin et on les a invités à venir travailler avec nous sur les interactions entre oiseaux marins et activités humaines. Au cours de ces ateliers, on leur a présenté les cartes de trajet en mer des footbassins, l'évolution d'année en année et des vidéos qui étaient enregistrées par les oiseaux de leurs interactions avec les bateaux de pêche.
Et justement, sur ces cartes, vous croisez les hommes ? Sur ces vidéos, vous croisez les bateaux de pêche ?
On croise les bateaux de pêche, oui. Oui. On voit les oiseaux qui viennent se nourrir. En fait, sur les oiseaux qu'on a équipés, on en avait 43% qui venaient se nourrir derrière les chalutiers. Et on a pu interpréter ces images avec les pêcheurs. Et c'était assez intéressant d'avoir des réactions très spontanées sur ces images. Alors sur les cartes de GPS, je me souviens d'avoir projeté cette carte avec les oiseaux qui avaient besoin d'aller très très loin, plus loin que d'habitude en 2013. Et les pêcheurs s'étaient exclamés, mais cette année c'est normal, il n'y a rien nulle part. On rame, ils rament aussi.
Ouais.
Pourquoi avoir suivi des footbassins plutôt que des goélands, des pélicans ou d'autres oiseaux marins qu'on peut trouver le long de nos côtes ?
Alors, on a fait le choix des footbassins pour de nombreuses raisons. Alors, d'abord, ce sont des oiseaux de grande taille que les gens identifient bien, donc qui voient bien dans leur milieu quotidien. Ensuite, ce sont des oiseaux qui sont très dépendants des stocks de poissons pélagiques, qui sont une composante très importante des océans, donc ça nous intéressait aussi. Ce sont des oiseaux qui couvrent de grandes distances. Donc les oiseaux qui nichent à Rosic dans les Côtes d'Armor, ils vont se nourrir depuis dans l'ensemble de la Manche en fait. Ils commencent même à en sortir. Voilà. Et puis c'était des oiseaux effectivement qu'on suit aussi depuis 2005 et pour lesquels on a beaucoup de recul et beaucoup de matière en fait pour discuter avec l'ensemble des acteurs.
Alors justement avec ces moyens d'observation privilégiés, est-ce que vous avez fait des découvertes aussi? Est-ce que ces oiseaux vous ont appris des choses que vous ignoriez?
Alors oui, ils nous ont appris pas mal de choses. D'abord qu'ils ne se contentaient pas de se nourrir des déchets ou des rejets de pêche, hein, qui font l'objet d'ailleurs d'une modification de la politique commune des pêches, mais qui venaient aussi se nourrir directement autour du filet. Et ensuite, deuxième découverte, ça a été de comprendre en fait que si on les protégeait, c'était bien de protéger leur colonie de reproduction en France, mais qu'ils allaient aussi en hiver se nourrir en Afrique de l'Ouest, là où nos propres pêcheries, les pêcheries de la communauté européenne, viennent pas mal attaquer les stocks de pays qui n'ont pas forcément les moyens de se protéger de manière légale. Enfin, disons que leur arsenal juridique ne leur permet pas de se protéger assez. Et en fait, nos footbassins peuvent être en danger sur leur zone d'hivernage en lien en fait avec des captures accidentelles dans les engins de pêche.
Justement, est-ce que l'espèce des footbassins se porte bien? C'est l'impression qu'on avait, mais est-ce que c'est toujours vrai?
Alors, l'espèce en elle-même se porte bien. Après, la colonie, la seule colonie que nous avons en France dans les Côtes d'Armor, montre des signes un peu inquiétants ces dernières années en termes d'allongement. Alors, avant, ils restaient juste en Manche Ouest. Maintenant, on les retrouve. Ils vont jusqu'en Manche Est et jusque dans l'Atlantique pour aller se nourrir. Et on pense qu'il y a un problème avec les stocks de poissons pélagiques en ce moment. On voit aussi que l'épaisseur de leur muscle pectoral qu'on mesure par échographie a diminué ces trois dernières années. Donc on est en train de chercher la cause de ces signes inquiétants.
Amélie Lescroël, est-ce que ces résultats et ces discussions dont vous parliez vous ont amené à imaginer des solutions, que ce soit pour les poissons ou pour les oiseaux avec les professionnels?
Alors nous, ce qu'on pense, alors il y a plusieurs choses. D'abord, on a deux perspectives en fait à ce projet. D'abord, une perspective scientifique qui va être de développer le moyen de décrypter en fait le signal GPS, en fait leur localisation en mer, pour savoir quand est-ce qu'ils se nourrissent derrière les bateaux ou pas, et de pouvoir suivre cette évolution de la dépendance aux pêcheries, parce que ça veut dire qu'en termes, à chaque fois qu'il y aura une modification de la politique des pêches, ça pourra avoir un impact sur ce type d'oiseau. Et une deuxième perspective plus opérationnelle, avec, on espère, le soutien de la Fondation de France bientôt, qui sera d'opérationnaliser un peu ce dispositif et de créer des espaces d'échange intersectoriels, donc entre pêcheurs, scientifiques, gestionnaires, naturalistes, des espaces d'échange qui utiliseraient les oiseaux marins comme support des discussions, qui faciliteraient la connaissance des uns et des autres, le dialogue, les collaborations, et on espère ainsi déclencher une dynamique collective et pouvoir travailler tous ensemble plutôt que dans l'opposition sectorielle.
Est-ce que ces footbassins vous ont appris certaines choses sur le réchauffement climatique?
Alors, pas encore, mais il se peut, pour l'instant, on se pose toujours la question si les oiseaux ont du mal ces trois dernières années, c'est sans doute à cause d'une diminution de la disponibilité en poissons pélagiques, sardines, maquereaux, tout ça. Et la question, c'est de savoir s'il y a un problème au niveau de la ressource en termes de quantité, éventuellement un problème de surpêche, ou si c'est plutôt un déplacement des stocks dû au réchauffement. Mais
ça reste
encore à déterminer.
Comment les scientifiques font bosser les footbassins, et puis évidemment avec ces observations extrêmement intéressantes. Merci Amélie Lescroël. Et puis Hervé,
merci,
on retrouve sur reporter.net un article sur le sujet, j'imagine.
Et beaucoup d'articles sur les océans qui nous passionnent.
Merci Hervé, à la semaine prochaine et à demain Axel.
À demain Mathieu.
Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, l'espérance de vie mondiale en nette augmentation selon l'OMS. Entre 2000 et 2015, elle a augmenté de 5 ans. En moyenne, une femme née en 2015 peut espérer vivre 73,8 ans contre 69 ans pour les hommes. Cette hausse spectaculaire est due au progrès en matière de survie de l'enfant, ainsi que dans la lutte contre le paludisme ou le VIH. Cependant, bien que les conditions de vie se soient améliorées dans les pays en développement, il subsiste encore de grandes inégalités sanitaires dans le monde. L'espérance de vie dans certains pays développés atteint 80 ans contre moins de 60 ans dans les pays d'Afrique subsaharienne fortement atteints par la tuberculose, le VIH, le paludisme et l'accès limité à l'eau potable. Des dents en guise d'épines pour la la première fois, des chercheurs ont trouvé du phosphate de calcium dans les poils urticants de végétaux issus de la famille des Loasacées, présente dans les Andes d'Amérique du Sud. C'est une découverte étonnante puisque cette substance minérale dure se retrouve généralement dans les os et dans les dents. Selon une étude publiée dans Nature, ces minéraux renforcent les trichomes des poils urticants servant à repousser les herbivores. La plupart des plantes utilisées, eh bien justement, se servent de la silice ou du carbonate de calcium comme biominéraux structurels, mais les scientifiques ne savent pas encore pourquoi cette plante échappe à cette règle. Si vous avez toujours voulu admirer l'éclat rougeoyant de Mars, eh bien c'est l'occasion en ce moment. Pendant quelques semaines encore, dès la nuit tombée, eh bien le ciel nous offre la possibilité de contempler la planète rouge brillant d'un éclat fixe et orangé. Phénomène qui intervient tous les 26 mois environ, lorsque la Terre et Mars se rapprochent l'une de l'autre et s'alignent avec le Soleil. Cette fois-ci, les deux planètes sont éloignées d'une distance de 75 millions de kilomètres, nous laissant la possibilité d'observer l'astre à l'œil nu. Un instrument astronomique est tout de même conseillé pour espérer percevoir quelque chose à la surface de la planète. Net.